station.
Le débat sur l'achat de l'avion Le Gripen, c'est maintenant avec Audrey Fasnacht et Isabelle Queloz. Bonjour.
Bonjour et bienvenue à notre premier débat en vue des votations fédérales du 18 mai en direct sur RFJ et RJB. Dans moins de deux semaines, le peuple suisse devra se prononcer sur Le Gripen, plus précisément sur la loi fédérale sur le fonds d'acquisition de l'avion de combat. Alors pour en débattre, nous recevons aujourd'hui deux intervenants dans nos studios. D'un côté, Pierre-Alain Fridé, conseiller national socialiste et président du comité jurassien anti-Gripen. Face à lui, nous accueillons Manfred Buller, député UDC au Grand Conseil bernois, partisan de l'acquisition du jet suédois. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors l'objet de la votation concerne le remplacement d'une partie de la flotte aérienne. Les 54 F-5 Tiger en service depuis plus de 30 ans sont aujourd'hui considérés comme obsolètes. Le Conseil fédéral et le Parlement proposent d'acquérir 22 avions de combat de type Gripen. L'achat serait financé par un fonds d'acquisition doté d'un peu plus de 3 milliards de francs. Manfred Buller, votre parti, l'UDC, est chargé de mener la campagne du Gripen. Alors s'il ne doit y avoir qu'un seul argument à retenir pour motiver la population suisse à glisser un oui dans l'urne, quel est-il ?
C'est la sécurité, je crois que c'est véritablement ça qui est en jeu ici. On nous parle de beaucoup d'autres choses dans la campagne, mais je crois que c'est la sécurité de notre pays tout entier qui est en jeu. La sécurité, c'est quelque chose qui est difficilement mesurable, c'est pas palpable, c'est un peu comme la santé. Tant qu'on l'a, personne n'en parle au fond. Aujourd'hui, nous l'avons, mais nous ne devons pas finalement la mettre en cause ou la mettre en jeu en votant non à cet achat de cet avion.
Alors au contraire, les opposants jugent plutôt que cette acquisition est inutile. Le comité composé du PS, des Verts, du PCS et du GSSA a lancé le référendum qui a abouti et qui fait qu'on va voter sur cette question le 18 mai. Pierre-Alain Fridé, en quoi finalement est-ce inutile cette acquisition ?
Écoutez, en 2010, quand le Conseil fédéral a interrompu la procédure d'acquisition pour des raisons budgétaires, les services de M. Maurer ont dit clairement que les 33 FA-18 à l'époque étaient suffisants pour la sécurité aérienne de la Suisse. Et c'est vrai que c'est là l'élément essentiel, la sécurité aérienne. Alors d'un autre côté, on nous parle, M. Buller, de sécurité. Il faut savoir que c'est que pendant les heures ouvrables qu'actuellement ce système fonctionne. Donc il y a véritablement un dysfonctionnement important. Et la sécurité, elle est assurée avec ces nouveaux avions, ces anciens avions de combat. On n'a pas besoin de 22 Gripen en plus. Un avion de toute façon qui n'existe pas et sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire.
Alors donc selon vous, les FA-18 dont dispose déjà finalement l'armée suisse serait suffisant à assurer cette sécurité. Alors pour le président de la Société jurassienne des officiers, Jean-François Berthollet, une plus grande utilisation des FA-18 poserait un autre problème. Nous l'avons joint par téléphone, Jean-François Berthollet.
Si on ne peut pas acquérir ces 22 Gripen, on va devoir utiliser plus fréquemment ces 32 FA-18. Et il était prévu que leur carrière termine en 2035, mais si on les utilise plus fréquemment, ils s'achèveront donc en 2025 déjà.
Donc selon vous, c'est nécessaire de remplacer ces 50 Tiger ?
Ah oui, bien sûr. Parce que si on ne remplace pas ces Tiger, ça veut dire que dans 10 ans, notre armée n'aura plus de force aérienne.
Alors, pour Jean-François Berthollet, on vient de l'entendre, ne pas remplacer les Tiger, c'est finalement que reporter le problème dans quelques années. Pierre-Alain Fridé, est-ce qu'on peut vraiment faire l'impasse sur de nouveaux avions de combat ?
Donc ça, c'est rigolo, parce qu'au départ, on doit remplacer des Tiger, puis maintenant, on doit remplacer des Tiger, puis en plus des FA-18. Donc, il faut voir les chiffres. Les FA-18 ont été mis en service entre 1997 et 1999. Ces avions volent 150 heures par année. Et en fait, au départ, ils étaient qualifiés pour environ 6000 heures. Maintenant, on parle plutôt de 8000, voire même 10000. Il faut savoir que nos FA-18 sont de qualité supérieure aux qualités américaines parce que les structures un peu, on va dire, très, très sollicitées sont en alliage de titane et pas en alliage d'aluminium. Ensuite, en mars 2010, 13 ans après l'entrée en service, le premier FA-18 a passé le cap des 2000 heures. Si maintenant, effectivement, on n'a plus d'avions supplémentaires, on peut imaginer qu'il y aura en fait une utilisation plus importante de ces avions. Et là, si on fait des calculs simples, celui qui est le plus vieux, le plus utilisé, il avait 2000 heures en 2010. 150 heures de plus, 4 années de suite, on serait maintenant à 2600 heures. Et si on estime peut-être 250 heures par année, rien que même si on met 4000 heures encore supplémentaires, donc 6006, alors qu'on pense que ça va aller beaucoup plus loin, on est en fait déjà en 2030. Donc effectivement, cet argument ne tient pas. C'est un argument un peu de dernière minute pour essayer de faire peur quelque part. Je pense pense que maintenant, il nous faut refuser ces avions de combat et effectivement reprendre dans quelques années une procédure d'acquisition qui sera là pour remplacer les FA-18. Et puis, peut-être que le Gripen E sera sur les rangs. Mais là, au moins, on aura un avion qui existe, qu'on pourra tester. Ce n'est pas le cas maintenant.
Manfred Buller, prendre du temps, quelques années, attendre encore quelques années, ça serait ça finalement la stratégie ?
C'est là précisément que se pose le problème de la sécurité, parce qu'on peut mégoter sur quelques années, on peut dire 2025, 2030, 2035 pour la fin des FA-18. Ce qui est important, c'est d'avoir le temps de planifier une acquisition. Et M. Fridé, en tant que conseiller national, est beaucoup mieux renseigné que moi, qui ne suis pas du Sérail, pour savoir qu'une procédure d'acquisition d'avions de combat, c'est quelque chose qui se mène sur 8, 10, 15 ans. Et c'est pour ça que c'est aujourd'hui, en 2014, que nous devons prendre cette décision. Si en 2010, on a pu dire, OK, on interrompt encore pour un petit moment la procédure d'acquisition, ça ne veut pas dire que ce n'est pas gentiment urgent et qu'il ne faut pas agir aujourd'hui. Nous sommes 4 ans plus tard et si on veut avoir une force aérienne qui survit de manière crédible, je crois que c'est le bon moment maintenant pour acheter 22 avions. Si on supprime une cinquantaine de Tiger et qu'on les remplace par 22 avions, je crois qu'il ne faut pas être mathématicien pour savoir que les heures du FA-18 vont effectivement augmenter en flèche lorsqu'il n'y aura plus de Tiger en service, et c'est très bientôt, c'est d'ici 2-3 ans que ces Tiger vont être mis hors service. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'il est urgent de ne pas attendre.
Et puis, oui, Pierre Lachaudet.
Je veux volontiers répondre. Le véritable problème, c'est de savoir de combien d'avions on a besoin. L'Autriche, par exemple, pour uniquement la défense aérienne, a 15 avions. Effectivement, on a besoin de peu d'avions, des avions de qualité, comme le FA-18. Et puis, il y aurait une autre tâche pour les avions, c'est imaginez le combat aérien dans le cas d'une invasion potentielle. Là, c'est de la politique fiction. Et dans ce cas-là, 22 Gripen de qualité très limitée, ça a été démontré dans la sous-commission dont je faisais partie à l'époque. Ces avions, il en faudrait énormément, et idéalement des avions les plus performants, donc par exemple des Rafales. Et là, maintenant, on parle d'acheter 22 Gripen, donc des avions très contestables. Donc, si on veut véritablement se défendre et faire quelque chose de plus que la défense aérienne de base, il faudrait 100 ou 150 rafales, par exemple. Et ça, c'est disproportionné, ça ne correspond à rien.
Alors, je ne crois pas, je conteste aussi ces chiffres. Finalement, c'est vrai qu'il faut s'entendre sur les besoins qui sont ceux de la Suisse en matière de défense aérienne. Il y a une vingtaine d'années ou 25 ans, la Suisse avait quelque chose comme 300 avions. Il y avait encore des Hunter, il y avait des Mirage. Aujourd'hui, nous en sommes à 32 FA-18 plus les Tiger qu'on remplace et on serait à 54 avec les Gripen, donc quasiment 6 fois moins. Donc de ce point de vue-là, je crois que c'est déjà une force aérienne qui est réduite au strict nécessaire avec 54 avions au fond. Et je ne crois pas que ce soit un luxe d'acheter ces 22 Gripen. Et lorsqu'on met en cause la qualité, alors là j'ai aussi un problème parce que tous les spécialistes nous disent que ces avions répondent aux besoins de la Suisse. Alors je peux comprendre que peut-être certaines personnes auraient préféré une Ferrari à la place de la BMW qu'on nous propose, puisqu'on dit que les Rafales ou d'autres modèles auraient été encore plus performants. Le Gripen est aussi encore en développement, et lorsqu'on les achètera, lorsqu'on les recevra, ils seront à la pointe de la technologie, notamment avec des équipements embarqués, des radars qui seront véritablement le top du top à ce moment-là. Et je crois que mettre en cause aujourd'hui la qualité de l'avion, c'est pas vraiment la bonne manière que de discuter ici, parce que là on doit discuter du principe.
Je me permets de rebondir sur le problème de la qualité. Donc effectivement, j'étais membre de la sous-commission d'enquête et c'est vrai que ce qui a été décrit par les experts qu'on a auditionnés, c'est que par exemple pour la police aérienne, le Gripen E serait sur la base des résultats du Gripen CD qui était très très défaillant et sur la base de calculs un peu par rapport aux améliorations qu'on espère, de toute façon juste satisfaisant pour la police aérienne. On a effectivement un avion là qui est moins performant que les autres, moins performant que le FA-18, et ça c'est pas contestable, Monsieur Buller.
Et puis l'un des autres motifs pour remplacer ces Tigers, c'est qu'ils ne peuvent pas être engagés la nuit. De toute manière, pour des raisons financières, les forces aériennes suisses ne sont opérationnelles que dans les heures de bureau. Alors, on l'a encore vu au mois de février avec ce détournement d'un avion à Genève, où ce sont les armées françaises et italiennes qui ont escorté l'appareil. Alors, du coup, Manfred Buller, quel est l'intérêt de se munir de nouveaux avions ?
Alors, je vais prendre un exemple automobile, vu que je l'ai pris avant. Si vous avez une voiture décapotable dont le toit est bloqué à la position ouverte et qu'effectivement vous ne pouvez donc pas rouler avec cette voiture lorsqu'il pleut, ce qui paraît assez évident, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer supprimer cette voiture parce que on a l'autre option qui consiste à réparer le toit ouvrant ou à ou en acquérir un nouveau et le remplacer. Et c'est exactement ça dont il s'agit. Effectivement, si aujourd'hui on n'est pas en mesure d'assurer le service 24 heures sur 24, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de le faire et qu'on ne peut pas améliorer la situation en ayant des nouveaux avions, ces 22 Gripen, qui permettront en tout cas d'assurer une meilleure situation que celle qui est le cas aujourd'hui. Et puis, si on a après des accords avec les pays voisins, je pense que c'est nécessaire de toute manière. Quand bien même on aurait 32 ou 54 avions, on aura quand même besoin de collaborer avec les pays voisins, mais on doit avoir une force de frappe maximale, une force de surveillance maximale propre pour avoir aussi un maximum de souveraineté, d'indépendance dans ce domaine.
Justement, quand on parle d'indépendance, est-ce que ce ne serait pas un problème finalement si on prônait justement une collaboration accrue avec les pays voisins pour défendre le territoire suisse? Est-ce qu'il n'y a pas ce problème d'indépendance, être dépendant justement des pays voisins et puis une question de crédibilité de l'armée suisse?
Bon, la Suisse est au centre de l'Europe, entourée par des pays amis, donc d'office, c'est vrai qu'il y a une collaboration qui existe. Mais j'aimerais rebondir sur ce que disait M. Buller tout à l'heure, sur le problème de la sécurité, etc. Il parlait d'une voiture avec un toit qui ne se ferme plus. Le problème, il n'est pas là, M. Buller. Le problème, c'est qu'actuellement, on n'a pas assez de pilotes. Ça fait des années que le Parlement a demandé à M. Maurer d'améliorer cette situation. On ne peut pas fonctionner la nuit. Ce n'est pas parce que les Tiger sont défaillants. On a les FA-18 qui vont très bien, mais il n'y a pas de pilotes en suffisance. Et ça fait des années que ça existe. Donc on est véritablement dans une situation ridicule où actuellement, il n'y a pas de problème de sécurité véritable. Le système fonctionne avec la collaboration aussi de nos voisins. Puis on essaie de nous faire croire qu'il y a des grands problèmes de sécurité, alors que dans les faits, c'est plutôt une certaine incurie et puis la non-résolution des problèmes qui existent.
Miser sur la formation de nouveaux pilotes, Manfred Buller, c'est peut-être ça plutôt la priorité ?
Alors c'est indispensable, bien sûr, en parallèle, puisqu'il ne suffit pas d'avoir des avions, il faut avoir les personnes nécessaires pour les utiliser, pour les piloter, il faut pouvoir les former. C'est là aussi un exercice de longue haleine. C'est aussi pour ça qu'acquérir des nouveaux avions, ça ne se fait pas en 6 mois, parce qu'il faudra former ces pilotes sur un horizon temps de 5 à 10 ans pour qu'ils soient opérationnels avec ces avions. C'est pour ça qu'aujourd'hui déjà, il faut avoir et les moyens budgétaires nécessaires. L'armée aujourd'hui peut compter, si on en suit la volonté du Parlement, sur un budget de 5 milliards. Je ne sais pas si M. Fridé a accepté ces modestes augmentations, puisque le budget était de 4 milliards et quelques, alors qu'il avait baissé depuis 10-20 ans sans discontinuer. Et de ce point de vue-là, je serais intéressé de savoir si M. Fridé et le Parti Socialiste seront d'accord. Le cas échéant, s'il faut des moyens supplémentaires pour, par exemple, former des pilotes ou équiper les avions avec l'infrastructure autour aussi, il faudra des infrastructures au sol et différentes choses. Donc, de ce point de vue-là, il faut aussi donner effectivement les moyens à l'armée. Et on a tout le temps réduit le budget de l'armée depuis 20 ans. Donc ça, c'est aussi un problème. Mais accuser M. Maurer, c'est un peu facile. Lorsqu'on lui enlève les moyens, finalement, il fait avec ce qu'il a.
Alors, il fait avec ce qu'il a, mais c'est vrai qu'il y a certains domaines où on constate certains gaspillages. Quand maintenant vous demandez des crédits supplémentaires, il faut quand même que nos auditeurs et auditrices sachent qu'il y a des programmes d'économie qui sont demandés. On a, par exemple, au niveau du Parlement, la majorité, dont l'UDC fait partie, a demandé de réduire de 6% les charges en personnel, environ 300 millions. Ça veut dire qu'il y aura des coupes, par exemple, si on parle de la sécurité, dans les gardes frontières. Dans des régions excentrées comme nous, frontalières, on a besoin de gardes-frontières. Donc, quelque part, M. Maurer veut mettre un toit sur la maison, un double toit, un triple toit, mais il y a des fenêtres qui sont ouvertes. Donc ça, c'est vrai que ça ne fonctionne pas. Il y a d'autres domaines dans lesquels on risque de faire des économies. Dans les domaines de la formation, de l'agriculture, du social, des infrastructures. Donc, il faut faire des priorités. Et avec nos 32 FA-18, on a notablement à disposition des avions susceptibles de répondre aux critères de sécurité de l'espace aérien tel qu'on est en droit de l'attendre maintenant.
Alors en parlant de priorité, hein, justement, à l'heure actuelle, le rôle de l'armée ne se limite plus à l'unique défense du territoire. Hein, il y a de nouvelles menaces qui pèsent sur les États. Nous avons joint par téléphone Stéphane Corr, qui est expert Internet et en sécurité de l'information. Et selon lui, l'achat du Gripen n'est pas forcément la première des priorités. On l'écoute.
Aujourd'hui, on est aussi dans des menaces au niveau cybernétique qui sont extrêmement importantes et ces menaces sont actuelles, sont en cours et elles sont beaucoup moins hypothétiques que des menaces qui sont liées à l'espace aérien ou à la défense de l'espace aérien. Alors, bien que la défense de l'espace aérien soit indispensable, mais elle peut être aujourd'hui assurée et répondre éventuellement à la menace actuelle, Tandis qu'au niveau cybernétique, on n'est pas forcément en mesure de répondre à la menace actuelle, qui, elle, est extrêmement dynamique et tous les jours augmente et se métamorphose d'une manière ou d'une autre et peut toucher un État, soit dans ses infrastructures civiles, soit dans ses infrastructures militaires.
Alors Manfred Buller, est-ce que l'armée suisse ne devrait pas justement revoir ses priorités et puis mettre l'accent plutôt sur ce genre de nouveaux risques, des cyber-risques ?
Alors, je crois que l'armée se remet sans cesse en question. L'armée, c'est aussi un petit peu le jouet, j'allais dire, parfois de la politique, que ce soit à gauche ou à droite. Chacun a ses priorités. J'ai les miennes dans ce domaine-là. Monsieur Fridé en aura certainement d'autres. Mais c'est clair que l'armée doit sans cesse se remettre en question. Mais je ne crois pas qu'acquérir 22 Gripen sur une période de 11 ans à raison de 300 millions de francs par année empêche l'armée de mettre aussi d'autres priorités sur, par exemple, la guerre électronique telle qu'elle est en cause ici, ou sur d'autres menaces nouvelles qui pourraient apparaître. Mais je crois que se passer de défense aérienne crédible, c'est vraiment un risque qu'on ne peut pas prendre aujourd'hui. Et lorsqu'on consacre quelques pourcents du budget de l'armée, finalement, sur une période assez longue de 11 ans, pour remplacer un certain nombre d'avions, même pas complètement, puisqu'on remplace 54 avions par 22, je pense pas qu'on puisse parler d'un problème de priorité. Et je crois pas non plus, pour répondre peut-être encore à M. Fridé sur un argument de tout à l'heure, que si on prend quelques pour mille du budget fédéral que représentent finalement ces avions par année, on puisse ensuite dire qu'à cause de ça, on devra économiser beaucoup plus dans la formation ou dans d'autres domaines importants. Là, je crois que c'est vraiment une relation de chiffres qui ne joue plus parce que, comme je le dis, 300 millions sur un budget de 60 milliards de la Confédération, c'est quelques pour mille, c'est 5 pour mille au fond, si je calcule juste. Donc, je ne pense pas qu'on puisse amener cet argument-là sur la table.
Vous voulez répondre, M. Fridé ?
Volontiers. Quand on a le système du frein à l'endettement, quand on a en fait des contraintes budgétaires très strictes, effectivement, que chaque franc dépensé d'une façon, on ne peut pas le dépenser d'une autre. Donc, les coûts, effectivement, dépensés pour ces avions, ils vont avoir des répercussions ailleurs.
Oui, mais le budget de l'armée, il est fixé. Il restera ces 300 millions dans l'armée. Simplement, le Parlement devra décider où est-ce qu'on va les investir ailleurs que dans des avions. Et là, on pourra peut-être mettre d'autres priorités dans les missions de l'armée, mais en tout cas, on ne pourra pas simplement, d'un coup de baguette magique, les affecter à la formation, à la culture ou à l'environnement.
Je ne vous ai pas interrompu, alors je continue. Donc l'idée, c'est qu'actuellement, on est monté à 4,7 milliards. On devrait monter à 5 milliards en 2016. Si on n'achète pas ces avions, on ne le fera pas. Ensuite, ces avions, ce n'est pas 3,1 milliards, c'est trois fois plus. Parce qu'il y a le prix d'achat, il y a l'entretien, il y a la maintenance, il y a les coûts d'amélioration. Et selon les experts de Ruag Aviation que j'ai rencontrés à l'époque, les chiffres étaient clairs. Ensuite, c'est vrai que les priorités actuellement, c'est le terrorisme, c'est la cybercriminalité, c'est la défense de nos frontières face à une certaine criminalité organisée, c'est la défense des populations contre des drames humains qui pourraient survenir suite à des événements naturels. Et face à ça, c'est vrai qu'on est quand même un peu des béotiens, on doit améliorer les choses, l'armée doit quelque part répondre maintenant aux vrais risques, et ça, c'est pas en achetant des avions surnuméraires pour simplement la sécurité aérienne qui est facilement assurée par nos FA-18 qu'on va y arriver.
Alors, je crois que le terrorisme, effectivement, c'est une menace. Et si on se rappelle, c'est pas si vieux que ça, des derniers grands attentats terroristes qui ont marqué l'histoire mondiale, c'est le 11 septembre, c'est en 2001. Et c'est précisément une attaque qui s'est faite au niveau aérien. À l'époque, Internet existait déjà. On avait aussi déjà ce genre de menaces. Et je crois que ce genre de menaces, on peut pas les sous-estimer. C'est pas parce qu'on a plus de tours qui se sont effondrées depuis une dizaine d'années, ou même un peu plus maintenant, qu'on doit négliger la sécurité aérienne. Et c'est précisément pour ça qu'une défense aérienne crédible et nécessaire dans notre pays.
Mais prenons les événements du 11 septembre, les Américains qui sont véritablement une puissance extraordinaire n'ont pas pu les éviter. Nous ici, avec quelques avions qui vont voler, quand on sait la rapidité des avions, éviter en fait ce genre de drame est quasiment impossible. Quelqu'un qui a un avion et qui tout d'un coup a un comportement suicidaire, c'est quasiment impossible. Et l'autre problème serait de savoir si un de nos FA-18, un de nos Gripen éventuel, pourrait abattre un avion civil dans de telles circonstances sur la base simplement d'une suspicion. Ça, c'est encore un autre problème. Et le terrorisme, effectivement, est un drame pour tout le monde entier, mais difficilement évitable.
Alors, on a parlé de la qualité de cet avion, du financement. Peut-être encore un chapitre à aborder, c'est les affaires compensatoires qui sont promises par le constructeur suédois Saab. Des commandes seraient passées auprès d'entreprises suisses pour un montant total donc, de 2,5 milliards de francs. Alors, ce serait un bénéfice pour l'économie et les places de travail. Ça ne suffit pas à vous convaincre, ça, Pierre-Alain Fridé ?
Écoutez, il y a un précédent, c'est celui de l'achat des FA-18 dans les années 90, où on nous promettait 100%. Le contrôle fédéral des finances a prouvé que c'était que 40%. Actuellement, ce qu'on constate, c'est qu'un bureau offset était là pour accompagner en fait cette procédure. Ben, ça fait long feu. Hein. Il y avait 2 emplois, maintenant il n'y en a plus que 0,1. On sait que c'est Ruac surtout qui aura ses commandes, des succursales de SAB. Et pour une région comme le Jura, peut-être sur 10 ou 11 ans, 1, 2, 3 millions d'affaires par année, c'est tout. Donc c'est relativement limité ce qu'on peut espérer. Et de toute façon, c'est pas cet élément-là qui doit être déterminant. L'argent, on va le dépenser. Puis là, ce serait juste une petite compensation.
Alors, on a vu, hein, effectivement, le cas du FA 18 a été marquant dans les années 90. Alors, qu'est-ce qui prouve, Manfred Buller, que ce ne serait pas de la poudre aux yeux dans le cas du Gripen?
Alors, je crois que même si on a fait une expérience qui n'était pas idéale avec le FA 18, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir la volonté politique. Et c'est aussi, finalement, un processus qui doit s'accompagner au niveau politique pour que ça fonctionne mieux cette fois-ci. Et je pense que notre économie a tout à gagner, parce que construire un avion de combat, accompagner, collaborer avec la Suède et Saab sur ce plan-là, je pense que ça peut être que bénéfique pour notre industrie qui est capable de faire du travail de pointe, et particulièrement aussi dans l'arc jurassien. On a même déjà prévu une clé de répartition au niveau des régions linguistiques, d'après la force des différentes régions linguistiques, pour qu'on ait une répartition aussi équitable que possible de ces contre-affaires. Alors après, savoir combien de millions ou de dizaines ou de centaines de millions précisément tomberont dans l'escarcelle de quel canton, de quelle entreprise, de quelle succursale, etc., ça effectivement c'est difficile à prévoir aujourd'hui, mais je crois que la volonté elle est là, et si on a fait une mauvaise expérience par le passé, rien n'empêche de faire mieux cette fois-ci.
Mais ça recommence, parce qu'en fait, ce bureau offset était là pour contrôler ces affaires compensatoires, et les gens en fait sont venus en parler devant la commission de la sécurité du Conseil national, et nous ont dit clairement qu'on leur reprochait de trop bien travailler, donc ils ont été saqués, hein, c'est le terme à utiliser. Il y avait 2 emplois, maintenant il n'y a plus que 0,1 poste, 2-3 heures par semaine par-ci par-là, parce qu'on essaie de mettre dans ces affaires compensatoires n'importe quoi. Et effectivement, on rejoue un petit peu la même partition qu'il y a une vingtaine d'années. Et véritablement, on va de nouveau dans le mur dans cette histoire.
Alors, on arrive déjà au terme de ce débat. Merci beaucoup à vous deux d'être venus prendre part à ce débat en direct dans nos studios. On rappelle à nos auditeurs que cette émission, eh bien, elle sera disponible dès cet après-midi en podcast sur nos sites internet rjb.ch et rfj.ch.
Et demain, rendez-vous à la même heure, juste après le journal, pour notre deuxième débat en vue des votations fédérales du 18 mai. Il sera consacré à l'initiative sur les salaires minimums. Merci pour votre écoute et bon après-midi. Aussi à nos deux interlocuteurs du jour, Manfred Buller et Pierre-Alain Fried. Merci beaucoup.
Merci.
Merci, au revoir.
Votation.